23h20, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à composer le 3921 et à nous appeler, chers amis. On accueille maintenant Michel. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci d'avoir retenu mon message.
Mais je vous en prie, merci d'être là ce soir avec nous, Michel. Vous nous appelez d'où, Michel ?
Natacha est charmante.
Oui, ça c'est, ça n'est pas la première fois qu'on me le dit.
Mais vraiment charmante.
Bon, bah écoutez, elle vous écoute de toute façon, donc je l'imagine bien. Elle doit rougir là, parce qu'elle rougit facilement, Natacha, donc elle doit être très contente. Dites-moi ce qui vous amène, Michel.
Alors hier, j'ai écouté c'est Valérie qui a raconté
Qui nous racontait son histoire de famille, vous voulez dire de son grand-père qui était son père,
c'est voilà.
Ça ? Oui.
Et il y a eu un moment où elle a dit qu'elle était, je dirais, presque obsédée par cette recherche de la vérité, par ce besoin de savoir, et que vraiment c'était la seule chose qui l'intéressait.
Oui, elle était vraiment intimement habitée par cette certitude, mais ce qu'elle nous expliquait très bien, c'est que cette certitude l'empoisonnait parce qu'il lui fallait prouver qu'elle avait raison. Et tant qu'elle n'avait pas la preuve, elle était comme empoisonnée par cette idée que son père n'était pas son père, mais il fallait qu'elle le prouve.
Alors, ça m'a fait... comme je suis moi aussi confinée et pas, très bientôt en retraite, j'ai le temps de réfléchir et le temps de... Et ce qu'elle a dit, je l'ai réécouté et j'ai repensé à ma vie.
Oui.
Et où il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et notamment cette obsession. Pour moi, c'est une obsession de la vérité. Alors je vais essayer de... C'est compliqué d'être clair.
Je vais essayer de vous aider.
C'est pas toujours facile. Je voudrais pas que ça arrive en vrac comme ça. Il y a 10 ans, j'étais intervenue sur avec Caroline Dublanche au sujet de ma mère. Donc
oui.
C'est un petit peu ça, mais revu et corrigé.
D'accord.
Je suis née, je dirais, comme j'ai dit dans le message, d'une erreur de casting. Mes parents n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais il y a eu un événement et je voulais pas en parler parce que j'en avais déjà... Je l'avais abordé il y a 10 ans, en 2010.
Je pense que vous pouvez le réaborder parce que, il y a 10 ans, donc
oui,
on ne se souviendra pas vraiment complètement.
Je ne pense pas, mais pour comprendre, je crois qu'il faut le savoir. Alors, c'est un petit peu compliqué. En 1942, ma mère avait 17 ans et elle habitait Nantes.
Oui.
Et donc, elle a rencontré, par l'intermédiaire d'une personne... un officier allemand, mais qui avait 47 ans, qui était veuf et qui avait 2 enfants. Alors, c'était quelqu'un qui parlait français, qui connaissait la culture française, etc. Et mon grand-père était artiste, peintre, donc il est venu chez mon grand-père, je ne sais pas les détails, mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé un jour, je crois qu'il a raccompagné ma mère chez ses parents. Il a rencontré mon père, mon grand-père, ils ont parlé d'art, ils ont parlé de... Bref. Et il y a eu une espèce de sympathie qui s'est installée dans la famille. Alors c'est sûr que ce n'était pas le bon moment, hein. Ça je reconnais que... Et en octobre 42, non, en février 42, ma mère est partie en Allemagne. Elle est partie dans la famille de cet officier allemand comme oui. Jeune fille au père.
D'accord.
Alors ça, je l'ai su après, je dirais comment.
Oui.
Et en octobre 42, elle est revenue en France. Elle a dû revenir.
Mmh.
Bon, à partir de là, bon, le temps a passé. Et en 1945, elle a été jugée. Alors, on cherchait dans l'entourage de la famille, dans les relations, quelqu'un qui aurait fricoté avec les Allemands, enfin, qui aurait fait de la collaboration. Ma mère, à 17 ans et demi, sortant d'un couvent, je voyais pas très bien, mais enfin, on ne sait pas. Toujours est-il que ma mère a été condamnée à 10 ans d'indignité nationale pour collaboration, je suppose.
Oui, pour trahison.
Oh, c'est même pas trahison, c'était collaboration.
En tout cas, je connais cette partie un peu sombre de notre histoire. Beaucoup de Français sur dénonciation en plus, donc on peut imaginer en voyant le taux de dénonciation aujourd'hui sur Internet par exemple, une grande partie de ces dénonciations parfois étaient totalement abjectes parce que c'était des mensonges, et il y a beaucoup de gens qui ont été malheureusement condamnés à la libération, dénoncés par des gens qui voulaient uniquement leur faire du mal.
Voilà.
Alors, je ne sais pas si c'est la bonne intervention, mais lorsque vous m'avez dit que votre mère était partie à 17 ans et demi comme fille au père en Allemagne, je me suis dit qu'obligatoirement, cela avait dû faire grincer des dents au sein de votre famille, aussi bien peut-être que, en tout cas, les gens en France qui étaient au courant de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça a dû... faire quelques remous.
Je suppose, on ne m'a pas dit grand-chose. Je sais que ma grand-mère parlait des boches. Alors, ce qui est curieux, c'est que la majorité était à 21 ans, donc il fallait bien l'accord de ma grand-mère. Donc, pourquoi ma mère est-elle partie?
Et pourquoi, pourquoi est-ce que c'est votre mère qui a été jugée et non ses parents, puisqu'elle était mineure, si je ne m'abuse? Donc,
non, en 45, elle avait 21 ans.
Oui, mais
elle est née en 24.
Mais on lui reprochait d'avoir été en Allemagne, je suppose. C'est ça qu'on a dû lui reprocher. Or, elle avait 17 ans et demi lorsqu'elle part en Allemagne, donc elle était mineure.
Oui, mais on lui a reproché. Alors, ce qu'on lui a reproché, effectivement, je pense que ça doit être de la collaboration, sais pas quoi. Enfin, surtout quand on connaît ma mère.
Michel, et donc, on est obligé de faire une petite pause avant de continuer. Donc, vous restez avec moi et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h28, vous êtes bien sur votre libre antenne, chers amis. Michel, donc cette maman est donc jugée à la libération, et elle perd donc pendant 10 ans, elle perd quoi en fait? Elle n'a plus le droit de voter.
Elle n'est plus rien quoi.
Oui,
Et donc, alors il y avait deux manières de se racheter. C'était soit d'entrer dans la résistance, ce qu'a fait notre président Mitterrand, qui a quand même été décoré par Pétain et qui a porté la Francisque.
Oui.
Ou alors épouser un militaire. Alors j'avais un oncle, donc le frère de ma mère, qui était en Indochine et qui avait un copain, donc mon père, et qui lui a proposé de rencontrer ma mère. Il lui a certainement dit un petit peu son histoire.
Oui.
Mon père, pas de problème, ma mère était une très belle femme en plus. Donc mon père a rencontré ma mère, ils se sont fréquentés, et puis ils m'ont conçu. Erreur tragique. Donc ils m'ont conçu, mais le problème c'est que ma mère était enceinte, et pour se marier... Étant donné sa condamnation, il fallait l'autorisation du chef de corps, là, de l'armée, pour qu'il puisse se marier.
Mmh.
La demande a été faite en octobre 49.
Oui.
Refusée. Ça a été refusé en octobre 49. Et à ce moment-là... ils se sont quand même mariés le 30 décembre 49. Hein. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc, moi, ça me paraissait un peu bizarre, tout ça. Le temps a passé. Moi, je n'étais pas au courant. On me racontait des histoires dans la famille. Et puis, en 2010, j'avais perdu ma mère depuis 2 ans. J'ai demandé l'autorisation de consulter les archives judiciaires.
Mmh.
En expliquant que pour moi, c'était une affaire de vie ou de mort. Je n'en pouvais plus. Est-ce que ma mère avait trahi? Est-ce que c'était quelqu'un qui... C'était terrible pour moi. Est-ce que cet homme était un nazi? Ça changeait tout. Parce que bon, rencontrer quelqu'un à 17 ans et demi, quelqu'un qui est en plus francophile, Bon, bah bien sûr, c'est la guerre, mais enfin, il n'y a pas de
Vous
crime.
Savez, on a eu beaucoup de personnes sur cette antenne de plus de 90 ans qui, lorsqu'elles nous contaient leurs souvenirs de guerre, avaient ces jolies paroles concernant les Allemands en disant « c'était la guerre » et il y avait parmi ces Allemands beaucoup de soldats très sympathiques qui adoraient la France. On peut imaginer, hein, on peut aisément
il
imaginer
en faisait
que...
partie.
D'accord. On peut imaginer en tout cas qu'une jeune fille soit tombée sous le charme d'un Allemand qui, lui, n'avait sûrement rien à voir avec la folie nazie ou quoi que ce soit.
Il a fait sortir des Français de prisonniers en Allemagne. Je demande autorisation de consulter ses archives et je l'obtiens. Mais je leur dis, moi, je ne peux plus vivre comme ça dans le je ne sais pas, je n'arrivais pas. En plus, ma mère a été monstrueuse avec moi. Excusez-moi, mais j'ai un chat qui n'aime pas le téléphone.
Ne vous inquiétez pas.
J'ai pas de perroquet, mais allez, pas de problème.
Ah, moi j'ai un perroquet.
Allez, c'est formidable. Et donc, je suis allée aux archives. Et là, je crois que c'est un des pires moments de ma vie.
Oui.
Donc, les archives à Rennes, on n'a pas le droit de photocopier, de photographier. Donc, j'ai tout recopié à la main. Petit livret rouge, dizaine de pages, et j'ai tout recopié.
Oui.
Et je lis le procès, il n'y a rien. Est-ce que ma mère est une femme de mauvaise vie? Non. Est-ce qu'elle travaille? Non. Il y avait un oui, je ne sais plus à quoi. Enfin, il n'y avait pratiquement rien. Et je continue. Et j'arrive au fameux mariage. Et là, je vois une lettre écrite par ma grand-mère.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça, ma grand-mère? Alors, une lettre très bien écrite, demandant le pardon de sa fille pour sa fille, etc. Mais le pire, c'est que ma grand-mère avoue dans cette lettre avoir dénoncé sa fille avec l'accord de ma tante, la sœur de ma mère.
Votre grand-mère, qui, si je ne m'abuse, était plutôt avec de drôles d'idées, m'avez-vous dit tout à l'heure?
Oui. Elle lui a fait payer. Parce que voilà, ma tante faisait partie des guides de France, vous savez, jeune fille de bonne famille, très catholique, très croyante, qui aime le Seigneur, là. Et ma tante avait une amie, mais vraiment très, très, très proche,
oui,
qui, elle, par contre, c'était notoire, fricotait hein, avec les Allemands, et on le savait.
D'accord.
Alors, ma grand-mère le savait.
Mmh.
Ma tante, forcément, le savait. Mais comme l'enquête a eu lieu dans le milieu de la familiale aussi, hein, parce qu'ils ont cherché un peu partout,
oui,
et que ma mère avait eu la mauvaise idée d'aller en Allemagne, bah c'est ma mère qui a été accusée.
Mais oui, et puis c'est votre mère qui a ramassé pour
avec l'assentiment de la grand-mère et de la tante. Et ma grand-mère écrit, et ça c'est terrible, elle écrit « Je ne voulais pas que l'amie de ma fille ait des problèmes ».
L'amie de votre fille, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ma tante qui était avec les guides de France, c'était la chef des guides d'ailleurs.
Oui.
Par contre, elle ne se gênait pas. Hein.
Oui, mais lorsque votre grand-mère dit qu'elle ne voulait pas que l'amie de votre fille ait des problèmes, elle parle de qui quand elle dit l'amie de sa petite fille?
Elle ne voulait pas que l'amie de sa fille, c'est-à-dire de ma tante.
Ah oui, donc de votre tante qui fricotait avec les Allemands, elle?
Non.
Ça, c'était une autre.
L'amie de ma tante qui fricotait.
L'amie de votre tante, pardon. Vous voyez, je n'avais pas compris. D'accord.
Oui, mais ce n'est pas évident.
Non.
Et donc, ma mère, elle a été condamnée. Personne n'a rien dit. Ils l'ont laissé, et à partir de là, ma mère a été, alors, Est-ce qu'elle a été tondue? Moi, je ne sais pas. J'avais 14 ans, elle m'a rasé les cheveux à 2 cm. Mmh. Je me demande ce qui s'est passé réellement. Je sais une chose, c'est que ma mère est devenue psychotique.
Vous m'étonnez.
Alors, elle est rentrée dans la psychose complète.
Si elle a été condamnée, vous savez, il y a de grandes chances pour qu'elle ait subi ce type de sort. Parce que on n'était pas tendre du tout avec les femmes qui étaient rasées quand elles étaient confondues et accusées donc de collaboration, en tout cas je ne sais quoi.
Et dans le dossier, il est écrit « Il manque deux photos ».
D'accord.
Donc, je vais y retourner, parce que ça, je veux savoir. Et donc, à partir de là, si vous voulez...
Quelle est votre hypothèse, avant qu'on continue, Michel, quelle est votre hypothèse sur ces deux photos manquantes?
Je pense qu'il y a une photo de cet Allemand.
Oui.
Et peut-être une photo de ma mère...
tondue.
Peut-être tondue, peut-être.
D'accord.
Je ne sais pas.
D'accord.
Mais ce qu'elle m'a fait à 14 ans et demi...
Elle vous a rasé la tête à 14 ans et demi.
Ah bah j'avais 2 cm de cheveux. Hein. Et elle m'avait même dit, ça te va très bien.
Et finalement, quand vous dites qu'elle était psychotique, lorsqu'elle vous a rasé les cheveux, vous estimez que c'est lors d'un épisode...
Ma mère a fait des troubles mentaux très jeunes, très tôt. Quand elle est rentrée d'Allemagne, je pense que ça a commencé là. Ça s'est déclaré. Elle avait peut-être une structure qui la poussait à avoir des problèmes de ce type-là. Mais enfin,
vous ne pensez pas que les épisodes psychotiques ont été déclenchés par la condamnation, la honte, parce que ça a dû.
C'est évident.
Oui,
et la haine. La haine de la famille.
Parce qu'il faut le rappeler ici. Hein, Michel, vous me direz si vous partagez tout cela, mais lorsqu'on parle aujourd'hui de cette haine, de cette horreur sur Internet, de gens qui insultent, déversent leur bile sur tout à chacun, hein, finalement, parce que n'importe qui peut être demain victime de ce type de choses, on a quand même cette part de l'histoire sombre, comme on le disait tout à l'heure, on a tout de même, c'est dégagé une odeur nauséabonde de délateur. C'était pas beau à voir la France hein, à ce moment-là, en 45. Il y a le côté lumineux avec la fête dans les rues, les Américains, mais il y a toute cette ces célébrations de femmes rasées sur, encore une fois, hein, des délations qui tenaient parfois sur rien. Donc c'était très dur, tout ça.
Dans l'émission, il y a 10 ans, quand je suis passée dans l'émission, il y avait deux messieurs âgés, ils avaient 80, 83 ans, qui ont raconté l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. Il y en a un qui pleurait d'avoir vu ce qu'on avait fait subir à des femmes.
Ouais. Mmh.
Et... J'ai l'enregistrement, je l'ai sur une clé USB, et c'est terrible. Hein,
oui, parce que les hommes allaient en prison pour collaboration, mais les femmes étaient... elles étaient livrées à la foule. Hein. Elles étaient livrées à la foule. Elles se faisaient raser, elles se faisaient cracher dessus. C'était horrible. Moi, j'ai vu des images là-dessus aussi, complètement... qui faisait froid dans le dos.
C'est une partie de l'histoire dont on ne parle pas beaucoup.
On n'en parle pas. Vous savez, ça et la délation des Juifs en France, on n'en parle pas assez.
Non. C'est juste. Mais si vous voulez, ma mère après. Bon, quand ma grand-mère a écrit, je ne sais pas, alors est-ce qu'il y a eu confiscation des biens, je ne sais pas comment elle a fait. Toujours est-il que le refus du mariage est devenu acceptation. Mes parents se sont mariés. Moi, je suis née 4 mois après.
Oui.
Et alors là, ça a été la fête. Hein. Elle ne s'occupait pas de moi. J'ai vécu en fait une forme d'abandon permanent. C'est-à-dire que quand j'étais avec elle, elle me laissait. J'avais 2 ans et demi, j'habitais dans le Gers. Elle me laissait traverser la rue, elle ne savait pas où j'étais. aucun problème.
Et lorsque vous évoquez, Michel, vous évoquez en début de témoignage, vous évoquez ce sentiment similaire à Valérie hier soir, c'est-à-dire cette intuition.
Oui.
Quelle était-elle, cette intuition, finalement ? Est-ce qu'elle était que votre mère avait vécu quelque chose d'effroyable et que vous en étiez la résultante ? Est-ce que vous aviez l'impression que votre mère n'aimait pas votre père et qu'elle avait été contrainte ?
Non, il ne s'aimait pas.
D'accord, mais quelle était cette intuition, donc cette chose qui vous minait, qui vous rongeait ?
J'avais l'intuition qu'on me mentait.
Qu'on vous mentait,
et
oui.
Et le mensonge, c'était la dénonciation de ma grand-mère et de
d'accord,
ma tante.
Ouais.
Ma grand-mère, pour qui j'étais tout, qui a tout fait, qui...
Qui se comportait bien avec vous, donc, cette grand-mère ?
Ah ben, il n'y avait que moi qui comptais. Je pense qu'elle voulait se racheter.
Vous avez eu des frères et sœurs ? Vous étiez fille unique ?
Alors, j'ai eu deux frères jumeaux après, mais bon, ma mère s'occupe un peu plus de mes frères, mais enfin bon, moi j'étais vraiment celle qu'il fallait...
cacher ?
J'ai eu une autre certitude, mais malheureusement, personne ne pourra me le dire. Je pense que ma mère aurait voulu avorter et elle ne voulait pas m'avoir, ça, elle me l'a dit. Elle m'avait donné d'ailleurs, avant que je naisse, j'avais un prénom de garçon qu'elle a transformé en prénom de fille, mais elle ne me voulait pas.
Et c'est très joli, Michel, en attendant. Vous voyez ? C'est un très joli prénom.
Ça, c'est mon pseudo et mon prénom est un prénom breton très très particulier.
D'accord. Votre pseudo est très joli en tout cas.
Et c'est mon deuxième prénom.
D'accord.
Et donc mes parents se sont mariés, ça a été la catastrophe. Après, à partir de là, ça a été elle me laissait. Elle est partie, on habitait la Normandie, elle me laissait toute seule, la nuit, elle sortait. J'étais toute seule, j'avais 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Mon oncle est rentré d'Indochine, complètement fou. Mon père, pas mieux, bah, avec les horreurs qu'ils avaient vues, je pense qu'il y avait de quoi. J'ai reçu des coups de ceinturon, il m'a ouvert la tête avec une boucle en cuir, j'ai encore la cicatrice.
Oui.
Enfin, mon oncle, le frère de ma mère, des fous, d'ailleurs il est resté violent toute sa vie, pas mon père, mais mon oncle. Et moi, je suis absolument certaine que ma mère aurait voulu avorter pour ne pas épouser mon père. Ça, j'en suis sûre.
Mmh.
Ça, j'ai la famille. Vous savez, dans les familles, quand il y a un secret de famille, tout le monde le sait, il n'y a qu'intéressé qui ne le sait pas.
Oui, oui.
Et
c'est vrai, vous avez raison. Tout le monde est au courant, sauf l'intéressé.
Et ma mère, j'ai voulu voir une partie de la famille. Elle me disait, non, ils ne veulent pas te voir. Non, ils ne veulent pas te voir, tu ne les intéresses pas. Elle m'a rejetée, mais toute la vie.
Oui,
elle m'a rejetée.
Vous deviez de toute façon être le symbole de cette époque. Vous deviez être l'enfant... qu'elle a eu avec un homme qu'elle n'aimait pas et peut-être qu'elle n'a jamais aimé puisque elle était sans doute très amoureuse de ce jeune Allemand. Hein,
Je ne sais même pas si elle était amoureuse de lui, j'en sais rien. Il avait 48 ans, elle en avait 17.
Ah minutes. Oui. Bon, mais non, mais je ne sais pas
il
non plus.
Il était veuf, il avait deux enfants.
On va marquer une pause encore, si vous le voulez bien, Michel. Je suis désolé. Et on se retrouve tout de suite, d'accord ?
Oui.
À tout de suite. Il est 23h45, vous êtes sur Europe 1, et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Michel, donc, cette mère ne s'est jamais occupée de vous, finalement. Est-ce que...
Jamais.
Est-ce qu'elle a essayé de se débarrasser de vous ?
Alors... Elle avait une... Vous dites quelque chose qui est intéressant. Je vais revenir un petit peu plus tard. Quand j'étais en terminale, j'étais allée voir un soir, on avait eu un cours de philo, et j'étais allée voir mon prof de philo. Et je lui avais posé une question. Je lui avais dit, comment pouvez-vous expliquer que ma mère ne soit... une mère, que je ne la ressente maternelle, que lorsque je suis malade. Quand j'étais malade, ma mère était charmante. Elle s'occupait de moi, elle faisait venir le médecin, elle me faisait des petits plats. Mais alors, dès que j'étais debout, c'était l'horreur. Et il m'a simplement répondu, votre mère vous aime dans le fantasme de la mort.
Ce qui a dû particulièrement vous ébranler, tout de même.
J'aurais du mal à vous dire dans quel état je suis rentrée. Oui, je suis rentrée chez moi, j'étais obsédée par ce qu'il m'avait dit, parce que c'était vrai. C'était parfaitement juste ce qu'il avait dit. Ma mère avait, je pense qu'elle a, elle n'a pas réussi, je suis sûre qu'elle a voulu avorter. Elle n'a pas réussi. Elle me laissait toute seule. Il y avait des rues à traverser, j'avais 2 ans et demi à Barcelone du Gers. Je me souviens, elle me laissait traverser les rues, il y avait des voitures. Elle ne m'aurait pas tuée, mais elle aurait bien voulu que d'autres le fassent.
Vous auriez eu un accident, ça ne l'aurait pas dérangé plus que ça.
Ça l'aurait arrangé. Ça l'aurait arrangé. Et elle a tout essayé pour me détruire. Alors, comme elle, physiquement, elle n'avait pas réussi, pourquoi elle me laissait toute seule ? Elle sortait, je crois qu'elle allait à l'opéra, à Caen, et elle sortait, elle me laissait. Moi, je tapais à la cloison des voisins, et j'étais toute seule. J'avais 4 ans. Mes frères n'étaient pas nés, donc je n'avais même pas 4 ans. Et j'étais dans le noir, j'étais vraiment toute seule. Et puis, le temps a passé, mon père est rentré. Il est parti en Bretagne pour construire une maison. Ma mère est restée en Normandie et elle lui a dit, je peux deviner, je peux m'en douter, prends ta fille et puis allez, dégage. Donc mon père est parti avec moi en Bretagne.
Oui, lorsque vous aviez donc 4 ans, 5 ans ?
Ah non, j'avais 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans peut-être, 6 ans maximum.
Oui.
Et vous savez où il m'a amené? Très gentiment, dans un orphelinat qui s'appelle La Providence. Alors s'il y a des Quimpérois là, qui entendent, ils doivent savoir que c'est devenu un parking maintenant. Mais j'ai retrouvé des photos. J'étais à l'orphelinat. Je n'ai pas eu une lettre de ma mère, pas un mot, pas une visite pendant plus d'un an. Et mon père a dû venir me voir 3 fois. On m'a apporté un paquet de bonbons dans le parloir et puis c'est bon.
Mais on avait le droit comme ça de déposer un enfant à l'orphelinat
Il l'a fait. Hein.
Donc c'était les sœurs. C'était les sœurs qui vous gardaient.
C'était des sœurs.
Ouais.
Et je me souviens. Alors en plus, je suis d'éducation protestante, mais ça c'était pas gênant. Hein. N'empêche que je leur dois. Malgré tout, je me souviens très bien de mon CP. Vraiment, c'est comme si j'y étais. Et je leur dois beaucoup. Parce que si j'étais restée avec ma mère, je ne sais pas si j'aurais survécu. Mais c'était terrible d'être seule. Je ne comprenais pas pourquoi comme j'étais avec des enfants qui étaient seuls, ça me paraissait normal. Et je ne pensais même pas à mon père.
Vous voulez que je vous dise ? Je pense que vous étiez inconsciemment, sans doute, beaucoup plus en sécurité et avec peut-être plus d'amour de la part de ses sœurs que vous n'en aviez chez vous. Qu'en pensez-vous ?
Je travaillais bien, donc j'étais valorisée. Ouais. Je faisais le tour des tombes parce qu'il y avait des sœurs qui étaient enterrées. J'allais regarder leurs noms. Mais effectivement, le mot sécurité, parce que j'ai déclenché des troubles anxieux sévères par le manque de sécurité. Mmh. Et mes parents se sont installés dans Quimper, il n'en a rien à faire. Et c'est un voisin, un jour, qui leur a dit « Mais vous allez la laisser longtemps, là-bas ?» Ils s'étaient tous installés là-bas, et moi, on me laissait chez les bonnes sœurs. Ensuite, il y a eu le primaire, et puis tout de suite, la pension. Dès la sixième, en pension. Allez, du balai, hein, c'était vraiment ça.
Ouais.
Euh, c'était pareil. Je voyais mes petites copines qui sortaient le jeudi. À l'époque, c'était le jeudi, avec les parents qui venaient, qui leur achetaient des vêtements. Ouais. Elles avaient des... Moi, rien. J'étais seule. Ben, je faisais du sport. Je faisais beaucoup de sport. Donc, ça compensait. Mais j'avais quand même un sentiment de solitude qui était terrible. Et quand je partais de chez moi, mon père me descendait à l'arrêt des bus pour que j'aille à mon collège. Mais quand je rentrais à pied avec ma valise et mon cartable. Et je faisais plus de 3 km toute seule, par tous les temps, la pluie, le vent, peu importe. Il ne venait pas me chercher. Il m'amenait pour être sûr que je parte. Mais quand je revenais, ben j'étais toute seule.
Au bout du compte, en fait, Michel, cette mère qui ne vous a jamais aimé, mais j'ai envie de vous dire que ce père ne vous a pas plus aimé.
Pas plus.
Parce qu'on s'est débarrassé de vous. Malgré tout, cette grand-mère qui s'est occupée de vous et a essayé de rattraper son erreur. Mais...
Ouais, bon.
On a entendu combien vous avez dû être totalement déçu et meurtri d'apprendre qu'elle avait dénoncé votre mère. Et
Je le suis encore.
Mais avant, justement, qu'on parle de l'impact que cela a eu sur vous et comment vous essayez de sauver votre peau, sans doute, parce que je pense qu'il a fallu en passer par là. Et il faut peut-être en passer encore par là en ce moment. Votre mère et votre grand-mère, quelle relation entretenaient-elles dans ce secret de la haine, ouais.
Ma mère haïssait
mère. Vous m'étonnez.
Elle haïssait sa sœur. Et parce que je pense qu'intuitivement, elle savait des choses, mais je sais qu'elle n'était pas au courant, parce que ça, je l'aurais su. Elle le savait, elle ne connaissait pas le contenu de son dossier. Hein. Ça n'a jamais, parce que les personnes qui viennent consulter les dossiers sont enregistrées. Et ma mère n'est jamais venue.
D'accord.
Mais il y a quelqu'un qui est passé.
Vous pensez que votre mère n'a fait que soupçonner votre grand-mère de cette dénonciation, que tout au fond d'elle.
Non, je pense qu'elle s'en doutait. Ma mère était très intuitive. Voilà. Mmh. Alors, et donc, elle s'est acharnée sur moi. Ouais. Elle n'avait que ça. Elle ne pouvait faire que ça. Donc, j'étais celle qui l'a. En fait, qui l'a empêchée de vivre sa vie, la vie qu'elle aurait voulu mener. Et elle me l'a fait payer. D'ailleurs, elle avait une phrase que je n'ai jamais comprise. C'était toujours : tu vas payer ma petite fille. Mais elle me l'a répété. À 50 ans, elle me le disait encore : vas payer. Mmh. Payer quoi ? Le fait d'être en vie.
Ouais. Elle est en vie encore, cette mère, aujourd'hui ?
Non, elle est décédée en 2008 et mon père en 2017. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrite en fac de lettres. Je voulais être journaliste, je voulais faire du journalisme. Bon, et passer par une licence de lettres et ensuite intégrer une école. Et là, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai fait une TS. Et ensuite, dépression, pendant un an et demi dans le noir, la catastrophe, complètement détruite. J'avais mon bac, parce qu'elle me disait, si tu n'as pas ton bac, tu iras travailler à Monoprix. Je lui avais dit, mais il n'y a pas de déshonneur, travailler à Monoprix. Et donc, c'était toujours la menace. J'étais tout le temps menacée. Alors, j'avais ma mère qui me disait ça et mon père, c'était... Elle partira jamais, elle partira jamais, elle partira jamais. Il répétait ça, il avait des crises comme ça, j'entendais.
Vous avez fini par partir quand, en fait ?
Alors, après cette dépression, je disais à Natacha, je lui dis, il s'est passé quelque chose de très bizarre, parce que j'allais vraiment très mal, j'entrais dans l'anorexie, dans tout ce qu'on voudra, je ne tenais pas debout. Et il y a quelque chose dans le cerveau qui est extraordinaire. Un matin, je me suis levée, ma mère m'a vue debout, ce qui était rare, et elle me dit « qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui dis « je vais chercher du travail ». Et elle m'a éclaté de rire à la figure. À ce moment-là, je me suis habillée, je suis partie, j'étais épuisée, mais ce jour-là, je ne sais pas, j'avais eu un peu plus de force. Et je suis partie dans la ville, en centre-ville, et j'ai vu une énorme pancarte. C'est là où je dis qu'il y a, il y a un destin quelque part. Rien, c'est fou ce qui m'est arrivé. J'ai pris une rue que je n'avais jamais prise avant, parce que c'était coupe-gorge, c'était noir, c'était... Je vais directement dans cette rue, et je vois un énorme panneau, mais quelque chose d'énorme, l'armée engage des secrétaires. Alors, j'ai fait ni une ni deux, je suis rentrée comme un zombie, en état second. J'ai posé des questions, j'ai demandé ce que c'était. Ils m'ont posé des questions, j'ai rempli un dossier. Et quelques mois après, je partais et j'ai passé 5 années au ministère des Armées. Où j'ai fait de la traduction du secrétariat. Enfin, du...
Et ça a été votre boîte de sauvetage, ça, non ?
Oui, mais j'étais partie en me disant, c'est une nuit comme ça, je me suis dit, il faut que je parte, que je retrouve un équilibre, et ensuite, je reprendrai mes études, parce que je ne veux pas qu'ils gagnent. Ils ont voulu me détruire, ils ne me détruiront pas. J'ai passé mes 5 années, j'ai rencontré mon mari qui faisait son service militaire. Tout ne peut pas être parfait. Et au bout de 5 ans, j'ai quitté donc l'administration, comme je l'avais dit, et j'ai passé un concours que j'ai réussi, je ne sais pas comment, et j'ai... Ce jour-là, le jour où j'ai réussi ce concours, je suis née parce que je suis entrée à la Salpêtrière faire mes études d'orthophonie.
Vous vous rendez compte, comme est fait la vie, il a fallu ces deux petits déclics professionnels pour que vous naissiez à nouveau, je dirais. On va se retrouver après l'info, si vous le voulez bien, Michel, dans quelques instants. Vous restez bien en ligne et à tout à l'heure, d'accord ?
À tout à l'heure.
Minuit passé de 7 minutes, vous êtes bien sur votre libre antenne, sur Europe 1, et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis, donc n'hésitez pas, vous avez encore du temps pour composer le 39-21. Nous sommes pour l'instant avec Michel, qui nous raconte son histoire, une histoire teintée d'une enfance difficile, d'une adolescence difficile, avec des parents qui ont... une histoire très particulière. Finalement, Michel, lorsqu'on écoute votre histoire, on se dit que on ne choisit pas sa famille et que pour vous, ça a dû être vraiment très compliqué, mais qu'en même temps, vous avez dû en tirer certaines conclusions, je dirais, sur le sens du mot famille, en fait. Que veut-il dire, en fait, ce mot-là pour vous aujourd'hui ?
Je pense que la famille, c'est celle qu'on se construit. Alors, ça peut être la famille d'origine, mais on peut aussi se construire une famille. Je disais à Natacha que moi, ma famille, c'était en fait les je me suis surtout occupée d'enfants, d'adultes pendant un certain temps, et ensuite d'enfants. Et c'est ma famille. Bon, j'ai pas de lien, j'ai pas fait de transfert, parce que ça, j'avais pris des précautions, parce que je connais un petit peu comment ça fonctionne. Il y avait un risque, quand on a été abandonné, de se retrouver, je dirais, avec une famille, avec du monde autour de soi, il y a un risque de... Et donc, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. J'ai travaillé avec des enfants, mais... Pendant des années, je les ai gardés pendant des années. Et j'ai eu, ça n'a été, je peux dire, que du bonheur. Là, c'est une revanche extraordinaire pour moi. Le jour où j'ai mis les pieds dans un hôpital, pour apprendre, pour faire mes études, ça a été ma naissance. Je suis née ce jour-là. Je n'ai pas vécu avant. J'ai fait plein de choses, mais j'ai commencé à vivre le jour où je suis rentrée à la Salpêtrière.
Était-ce la perspective de donner à l'autre, de l'aider ? Parce que je suppose que dans le cadre de votre métier, puisque vous êtes devenue orthophoniste, hein, je crois.
Alors, je me suis dit, pendant les 5 années où, qui ont été difficiles, parce que je me suis fait soigner, c'était, il m'arrivait d'aller quelques fois chez moi en Bretagne, et quand j'arrivais, ma mère me disait « Te voilà encore ?» Alors, il m'est arrivé de faire un aller-retour, de même pas rentrer chez moi, de reprendre le train. Ça, je l'ai fait 2 fois. Enfin, c'était vraiment la haine, quoi. Il n'y avait rien à faire. Il fallait l'accepter. Ce qui était dur, c'était de l'accepter. Mais après, pendant ces 5 années, à la fin de ces... pendant la 5e année, juste avant de quitter le ministère, je me suis dit... bon, ben, voilà, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais transformer ce que j'ai fait en tout ce négatif, j'aimerais en faire quelque chose de positif. Et donc, j'ai passé ce concours, ça faisait quelques années que je m'étais arrêtée, c'était pas évident, en plus, c'est pas ouais. facile, et je ne sais pas. Alors, l'état second... Valérie parlait de l'état second quand elle prend sa voiture. Moi, j'ai passé mon concours en état second. Il m'est arrivé une chose complètement folle, c'est-à-dire que j'ai été convoquée, j'ai expliqué pourquoi j'avais choisi cette formation et on m'a convoquée un jour. Alors, j'ai passé quelques heures à répondre à des questions, à faire des dictées, à faire des matchs, je ne sais plus, enfin, il y en avait. Et je suis rentrée chez moi et j'ai attendu. Mais moi, pour moi, ce n'était pas le concours que je passais. C'était un pré-concours, j'allais dire. J'attendais une convocation pour passer un examen. Et quand j'ai appelé un jour, j'ai dit, bah, écoutez, voilà, je me permets de vous appeler parce que je n'ai pas de nouvelles. Et la secrétaire m'a dit, mais vous êtes reçu.
D'accord.
J'ai bien compris l'état second. Je n'étais pas dans un état normal. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en état second. Alors, est-ce qu'il y avait la peur de pas le réussir? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, le plaisir d'être, je sais pas. Et on m'a dit, mais vous êtes reçu.
Et là, c'était parti, je suppose, pour vous.
Ah ben, j'ai travaillé, je peux dire, comme une malade.
Oui.
D'ailleurs, ça a posé des problèmes parce que j'avais travaillé le dimanche à l'hôpital. J'avais choisi la voie neuropsychologie, alors c'est passionnant, voir un cerveau marcher. Alors quand on a eu des cerveaux comme il y avait chez moi, c'était encore plus passionnant. J'avais un patron extraordinaire, un service avec des gens, mais je posais des questions, j'avais des réponses, il y avait de la... Vraiment, c'était fabuleux. Mes études ont été tellement fabuleuses que j'ai voulu continuer. Et j'ai fait 2 années de psycho et malheureusement, mon mari a fait un infarctus.
Ce qui vous a fait, vous a obligé à les arrêter, je suppose. Ouais.
J'avais eu mon diplôme d'orthophoniste, mais j'ai dû arrêter parce que double infarctus à 33 ans, avec greffe cardiaque, 3 greffes qui se sont suivies, ça a été la... Voilà. Mais j'ai quand même travaillé. J'ai travaillé dans des centres et puis plus tard, je me suis installée en libéral. Bon. Mais j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai jamais arrêté mon... Je crois que là, ça aurait été très grave si je m'étais arrêtée.
Et vous travaillez toujours aujourd'hui ?
J'arrête fin novembre.
D'accord. Donc ça va être une période particulière à passer, je suppose.
Je vais sûrement m'occuper dans une association, ouais. Je vais m'occuper d'enfants ouais. en difficulté. Ouais. Je me suis dit, vu mon parcours, vu ce que j'ai vécu, on peut s'en sortir. Il faut, c'est dur, c'est difficile, on passe par des épreuves, mais je ne veux pas dire que j'étais un exemple, mais je pouvais leur dire. Sans leur parler de moi, bien sûr, leur donner en fait une certaine force. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ça s'est tellement bien passé que je suis très contente d'arrêter parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres projets.
Ouais, ouais.
Mais je n'ai eu pratiquement que des satisfactions pendant tout le temps que j'ai travaillé, que ce soit avec des enfants sourds, avec des enfants autistes, avec des enfants hyperactifs. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. C'était du bonheur. Je disais à Natacha, il y a un langage dans la douleur. Je pense que quand on a été secoué, on a en face de soi des gens secoués, il y a un langage.
Oui,
il n'est pas forcément verbal, mais il y a quelque chose qui passe. Il y a des connexions.
Il y a une connexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour votre témoignage. Vraiment, un témoignage qui parle de force aussi, parce que vous avez eu beaucoup de force pour réussir cette vie et pour vous relever de tout ça.
Je ne sais pas si j'ai réussi, mais.
En vous écoutant, en tout cas, je pense qu'il y a plus d'un enfant qui a croisé votre route, qui a eu la chance de croiser votre route. Et pour ça, de toute façon, avec les débuts compliqués que vous avez eus en tant qu'être humain, je pense que c'est une force et c'est une forme de réussite aussi. En tout cas, merci beaucoup.
Et maintenant, je vais écrire. Il me reste à écrire mon histoire.
Tenez-moi au courant, parce que
c'est mon projet.
Je serai l'un de vos premiers lecteurs.
Promis.
Passez une bonne soirée, Michel, et mille merci pour votre beau témoignage.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.